Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, on découvre l'urbex. Bonjour Timothy Hanem.
Bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue. Merci. Vous êtes auteur, dessinateur, passionné par l'urbex. Mais alors c'est quoi ?
Alors l'urbex, ça vient de l'anglais, ça veut dire urban exploration. Ça consiste à visiter des lieux abandonnés ou fermés au public. Et à les explorer, à se renseigner sur leur histoire et très souvent à faire des photos.
Et ça veut dire que ces sites, ils sont fermés, donc interdits au public. Il y a une petite part de risque, de danger, de...
D'illégalité.
Oui, oui. C'est toujours illégal parce qu'un lieu appartient toujours à quelqu'un. Ouais. Même si c'est une maison abandonnée qui est à la campagne depuis 50 ans, il y a toujours quelqu'un, un propriétaire derrière. Donc c'est toujours illégal, interdit.
Mais ils sont nombreux ces lieux abandonnés comme ça en France, en Europe ?
Il y en a partout en fait, et si on se met à bien chercher, on en trouve vraiment des centaines.
Génial, alors grâce à vous on va découvrir ces sites abandonnés, les frissons qui vont avec forcément. Première étape, en Italie, dans un asile psychiatrique. A tout de suite sur RTL.
RTL. Moi ce qui m'attire dans l'urbex, c'est l'histoire. C'est découvrir, redécouvrir l'histoire des lieux, comprendre à quoi a servi le lieu, pourquoi est-ce qu'il a été construit.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce que recherchent les autres urbexeurs, ça peut vraiment être de l'adrénaline, au frisson, au simple plaisir d'admirer ces lieux qui ont parfois une architecture exceptionnelle.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et on découvre cette aventure surprenante qui peut se trouver au coin de la rue, l'urbex, comme exploration urbaine des lieux construits par l'homme, souvent abandonnés, interdits au public, que notre invité déniche, visite et photographie. Timothy Hanem, on va explorer l'Europe, hein, grâce à vous, on va se balader dans 2-3 pays. Mais d'abord, je dis, cette aventure, elle peut se trouver au coin de la rue pour tous les auditeurs d'RTL. C'est, par exemple, une aventure en France, qu'est-ce que vous diriez au coin de la rue, vraiment le site le plus étonnant, pas si difficile à trouver?
Ça peut être une ferme simplement ou un bâtiment qu'on passe devant tous les jours et en fait on le regarde comme ça du coin de l'œil mais on sait pas trop à quoi il sert.
Parce que tous les lieux ont des histoires en fait, c'est ça ?
Ils ont tous une histoire, ouais. Alors après plus ou moins spectaculaire, mais vraiment on trouve très facilement pas loin de chez soi des lieux à explorer pour un peu s'évader et remonter le temps.
Vous avez un exemple en France ?
Oui, bon, en fait, il y a un an, j'ai visité un lieu avec un ami un matin, une espèce de château très sympa. Et ensuite, j'avais un plan B, parce qu'on prévoit toujours un deuxième lieu à explorer au cas où le premier est fermé. Et ensuite, c'était juste une espèce de... Sur Google Maps, je voyais que c'était vraiment juste des débris comme ça, de pierres au milieu de la forêt, je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, en marchant, on a marché une petite demi-heure sous la pluie, dans la boue, on se croyait dans les marécages de la mélancolie, l'histoire sans fin. Et on arrive dans une... on tombe sur une ferme qui est juste sublime, avec une espèce de manoir avec deux tourelles, et le tout est entouré de douves. Donc c'était vraiment magique de tomber sur ça, alors qu'on était venu sans idée préconçue, en disant bon, on va voir ce que c'est un tas de ruines, mais ça sera bien. Et du coup, c'est l'urbex, c'est ça, c'est aussi la surprise de tomber sur des choses surprenantes.
Et c'est des outils aussi, Timothy Hanem, pour trouver comme ça ces lieux. Vous utilisez Google Maps, c'est ça ?
Ouais, j'aime bien me promener au hasard.
Ça fonctionne comment, vous nous le rappelez ?
Bah, c'est un outil qui sert à se promener au-dessus et à avoir des vues satellites
sur Internet,
de faire des trajets, ce genre de choses, mais moi j'utilise vraiment pour me promener au hasard, comme si j'étais un petit oiseau qui se promenait au-dessus d'une forêt. Et dès que je vois un truc qui a l'air un peu intéressant, je vois, je sais pas, un bâtiment avec de l'herbe tout autour, qui a l'air pas trop entretenu, avec quelques débris autour, je me dis, celui-là, il est pas trop loin, on va essayer de voir ce qu'il y a. Ça se trouve, c'est fermé, ça se trouve, non, mais il y a toujours un peu la surprise.
Qu'est-ce que vous recherchez ? L'adrénaline, l'interdit, le goût du risque ?
Alors, l'adrénaline et l'interdit, ça fait partie des choses, parce que quand on va visiter un endroit où on n'a pas le droit d'être, forcément, il y a ça qui entre en jeu. Mais moi, j'aime bien, c'est l'évasion, en fait. C'est vraiment la perte de repère totale. Aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, donc on ne connaît pas trop la fonction, et aller de pièce en pièce sans savoir ce qu'on va trouver, un peu comme dans un jeu vidéo, en fait, on passe d'une étape à une autre sans vraiment savoir ce qui va arriver. Donc forcément, il y a un peu d'adrénaline si on y va tout seul, parce que ça fait un peu peur aussi des fois, comme c'est abandonné. Et évidemment, il y a l'interdit. Mais en fait, l'interdit, c'est surtout quand on entre sur le terrain, en fait. Quand on entre dans le manoir, on a un peu une sensation d'interdit. Mais une fois qu'on est dedans, on se sent plutôt bien, en fait, on se sent serein, parce que comme on est entouré de toutes ces vieilles pièces et ces vieux objets, on remonte le temps. Et on oublie un peu l'interdit.
Timothy Hanem, vous avez parcouru l'Europe à la recherche de ces sites abandonnés. Vous en faites d'ailleurs un livre, Urbex Europe, publié aux éditions Artaud. On y découvre, par exemple, cet hôpital psychiatrique non loin de Milan. Est-ce qu'il est déjà absolument abandonné, cet endroit ?
Alors, il est abandonné, on va dire, aux deux tiers. Parce qu'en fait, comme c'est un truc qui a été construit vraiment au tout début du siècle, et c'est une époque où on faisait des sites immenses partout en Europe avec des trentaines, une quarantaine de bâtiments. Mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tiers qui fonctionne vraiment. Et tout le reste est abandonné.
Mais comment vous y entrez sans vous faire repérer s'il y a des gens qui travaillent dans cette
En fait, c'est le bon côté des sites immenses, c'est que plus c'est grand et plus il y a de chances de pouvoir rentrer un peu partout. Et il y a un mur autour, des grillages, ce genre de choses. Mais qui dit grillage dit forcément, il y aura forcément un trou dans le grillage quelque part. Donc on a, comme ça, on peut rentrer sans rien casser.
Et là, vous faites une découverte absolument incroyable dans cet hôpital psychiatrique.
En fait, voilà, je savais vaguement qu'il y avait un bâtiment très intéressant dans cet asile. Mais on ne savait pas trop où se situer parce qu'en vue satellite, on ne voyait que des rectangles avec des toits de tuiles rouges, donc on ne savait pas trop. Et à force de se promener, on a fait un bâtiment, deux bâtiments, cinq, six bâtiments. Et après, on tombe sur ce bâtiment. Et c'est en fait, le bâtiment, c'était un théâtre.
Un théâtre à l'italienne,
peut-être
qu'on les imagine.
Voilà, où étaient jouées des pièces, jouées par les malades ou par le personnel, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un asile psychiatrique avec un théâtre à l'italienne dedans.
Est-ce que vous ressentez quelque chose d'un peu immatériel, les bonnes, les mauvaises ondes d'un lieu? Et qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette...
À titre personnel, moi, je ne ressens pas tout ce qui est les ondes, tout ce qui est fantômes, tout ça. Moi, je me sens tellement bien à visiter ces lieux, je me sens au calme, serein, loin du boulot, loin de la société, loin des voitures. Donc, je pense pas aux fantômes. Après, c'est vrai que moi, je suis comme tout le monde. S'il y a une porte qui claque derrière moi, je me dis, c'est un fantôme. Alors qu'en fait, c'est juste un courant d'air parce que toutes les vitres ont été cassées. Donc forcément, il y a des courants d'air dans la maison.
Parce que ce lieu-là, cet hôpital psychiatrique en Italie, il a une histoire aussi un peu, forcément un peu rude et même un peu glauque à l'époque de la Seconde Guerre mondiale.
En fait, c'est ça. Déjà, quand on visite le bâtiment, on voit qu'il y a des grilles partout aux fenêtres, des balcons. Mm-hmm. Donc là, on s'imagine que c'est pour empêcher les patients de se suicider, de sauter. Donc ça donne un peu la mesure de ce qu'on est en train de visiter.
Bien sûr.
Et on voit aussi les cellules qui sont les pièces un peu petites, un peu fermées. Donc on imagine que les gens vivent là-dedans comme dans une prison, donc c'est pas très joyeux. Et après, en me renseignant sur le lieu, j'ai appris que sur place, à la fin de la guerre, des résistants communistes avaient amassé une soixantaine de miliciens fascistes et ils les ont massacrés sur place. Ça, je l'ai appris après. Si j'avais appris avant, la visite aurait été un peu différente, je pense. Moi, j'aime bien ne pas trop me renseigner, comme ça j'ai un regard un peu plus vierge et ouvert sur le lieu, plutôt que de me dire c'est là qu'il y a eu le massacre, il faut que j'aille voir là. J'aime bien être...
Allez, on va continuer de visiter grâce à vous ces sites abandonnés, ces sites interdits un peu partout en Europe. On part à la découverte d'un ancien bunker nazi dans un instant. A tout de suite sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pourquoi on prend un faux nom? C'est idiot de faire ça, non?
Non, parce que ce qu'on va faire n'est pas tout à fait légal.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est une aventure.
Et détends-toi. Tu vas voir, ça va être mortel.
Sur RTL.
Nous, on est ici. Et ce qui nous intéresse est là-bas, à 2 heures de marche. Les souterrains de Berlin, c'est spécial.
Extrait du film d'horreur Urban Exploration. Nous sommes avec Timothy Hannen, qui est urbexeur. Justement, vous pratiquez cette exploration urbaine et en les visitant, vous photographiez ces lieux que vous nous présentez dans un très beau livre paru aux éditions Artaud. Des lieux qui sont souvent abandonnés, qui sont interdits au public. Est-ce que vous avez eu des grandes frayeurs, vous d'ailleurs? Est-ce que vous avez été arrêté, par exemple?
Oui, j'ai souvent été arrêté, en fait. Soit par un vigile, soit par la police, des voisins qui me voient rentrer de loin, qui appellent la police, soit par un propriétaire lui-même, je tombe sur lui dans un lieu.
Quand vous en sortez, alors une fois que vous êtes arrêté, vous dites quoi?
Pour
repartir libre.
J'explique directement ce que je fais. Déjà, je dis bonjour, je me présente, je donne ma carte d'identité, je dis que je suis là pour faire juste des photos et rien d'autre. Et ça se passe plutôt bien, en fait. Évidemment, je me fais sermonner, ce qui est normal, parce que je ne suis pas chez moi.
Du coup, vous prenez des précautions, j'imagine, Timothy Hannen, pour ne pas vous faire arrêter. Quelles précautions il faut prendre quand on fait de l'exploration urbaine?
Être le plus discret possible. Ça veut dire, si on veut rentrer sur un site qui est un peu compliqué d'accès, y aller très tôt le matin. Et vraiment avoir des couleurs de fringues un peu discrètes.
Donc là, vous êtes habillé par exemple en noir avec une casquette brune. Est-ce que ça veut dire que vous allez explorer RTL très discrètement juste après l'émission?
J'ai une casquette rouge exprès pour aller avec le micro.
C'est une bonne idée. Mais vous avez fait de la prison? Non, jamais. Vous êtes arrêté?
J'ai visité une prison, mais elle a été abandonnée, heureusement.
Ah, bon, voilà. Ça va. Bon, allez, on raconte cette histoire qui nous ramène à la Seconde Guerre mondiale. On y était tout à l'heure quand vous avez raconté ce sanatorium, cet ancien asile en Italie, non loin de Milan. Là, on est en Allemagne, dans un ancien bunker nazi. Ça vous ramène aussi un peu à votre histoire familiale. Donc, il y a une émotion particulière ce jour-là?
Oui, en fait, mon grand-père maternel a été déporté à Auschwitz. Du coup, en fait, quand je cherchais des lieux à visiter pour ce livre, en Allemagne, je me suis dit, ça va être dur d'éviter de visiter des sites qui, plus ou moins liés à l'Allemagne nazie. Ouais. Et en fait, beaucoup ont été rasés, sauf celui-là.
Alors c'est
quoi? On va voir pourquoi. Et en fait, c'est un ancien bunker nazi qui était camouflé sous, on va dire, une quinzaine de fausses maisons en béton. Mais énorme et vraiment très très solide, au point que les Russes et les Américains, à la fin de la guerre, ont essayé, en les bombardant, en les faisant sauter, de les casser. Mais non, en fait, c'est trop solide, les maisons sont toujours là. Donc ça ressemble à des énormes maisons grises, vides et vraiment impressionnantes. Et quand on visite ça sur place, du coup, ça me ramenait vraiment... Enfin, je touchais l'histoire avec un grand H, et surtout l'histoire personnelle, puisque je touchais le... C'était le centre de commandement de l'aviation allemande.
Ah oui, donc c'est pour ça que c'était vraiment, aussi protégé.
C'était aussi protégé, et surtout, j'étais sur un lieu qui avait été vraiment en lien et qui avait eu une emprise sur mon histoire personnelle.
Parmi les sites qu'on découvre dans votre livre Urbex Europe, publié chez Artaud, il y a aussi ce manoir qui est réputé dans le monde de l'exploration urbaine. On est en Belgique, à l'est de Bruxelles. Comment vous faites pour y rentrer ?
Eh ben en fait, c'est un peu décevant, mais en fait, c'est très facile de rentrer sur ce genre de site parce que plus le lieu est abandonné et plus le grillage il va être rouillé, il y aura des trous partout, il n'y aura plus de barrière. Donc en fait, on rentre très facilement dans les lieux. Après, une fois devant le manoir, il peut être complètement placardé de planches ou de barres de fer. Et là, on peut vraiment se trouver...
Pourquoi il est réputé, ce manoir, en Belgique ?
Bah, il est magnifique, ouais. Parce qu'en fait, il a vraiment le look d'un manoir de la famille Adams. Donc en fait, de loin, je me suis dit, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, celui-là, il faut absolument que j'aille le documenter.
Et à l'intérieur, il tient sa promesse, ce manoir de la famille Adams ?
Bah, pas du tout, parce que quand j'arrive, en fait, c'est la déception. La toiture a complètement brûlé, entre-temps. Ouais. Et en fait, ça, c'est un des risques de l'urbex. On ne sait jamais trop vraiment si le lieu va être visitable ou pas.
Est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce qu'il y a un code de conduite, quand même, pour les explorateurs urbains ?
Ouais, alors c'est très simple, en fait. On rentre, on fait des photos et on s'en va. Et c'est tout. On casse rien, on vole rien. Ça sert à rien, de toute façon ça peut amener que des embêtements. On est là vraiment que pour documenter un lieu, pour le prendre en photo, le ressentir, et c'est tout.
Dans ce site-là, je crois en Belgique, à l'est de Bruxelles, vous avez quand même une mauvaise surprise. Vous n'êtes pas tout seul, vous commencez à entendre des voix. Des militaires, c'est ça ?
Oui, en fait j'entends des voix au loin, et du coup je fais un peu le tour du manoir, et je tombe sur un immense site d'une école militaire abandonnée, avec d'autres bâtiments pas abandonnés à côté, et du coup c'est les voix que j'entends. Du coup, c'est un peu la surprise de tomber sur un spot de rechange juste à côté du premier que je comptais explorer et qui était en fait brûlé.
Donc, quand il y a des militaires, qu'est-ce que vous faites ?
Eh ben non, parce que le site avait l'air vraiment abandonné, donc je me disais que je risquais pas grand-chose à visiter un site abandonné.
Eh ben voilà, une autre histoire à lire dans votre livre Urbex Europe, publié chez Artaud. Et puis vous publiez aussi, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dessinateur, auteur, la bande dessinée Un feutre dans la limonade, quel joli titre. C'est aux éditions Lapin, ça sort le 14 mars. Merci beaucoup
Timothée. Anem, très joli prénom.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.